L'accent des autres vous accompagne comme toutes les semaines. Bienvenue, voici l'essentiel de l'actualité francophone de la semaine avec France Inter, Radio-Canada, la RTBF, la Radio-Télévision Suisse et RFI. C'est votre rendez-vous avec les médias francophones publics. La Suisse accélère donc une nouvelle fois le rythme de son déconfinement. Dès ce week-end, les rassemblements jusqu'à 30 personnes sont admis au lieu de 5. Et puis à partir du 6 juin, cinéma, théâtre, concert, piscine, centre de loisirs et remontées mécaniques pourront rouvrir. Des événements possibles jusqu'à 300 personnes cette fois. Cela dit, Pierre Anchauffat, la prudence et la protection restent essentielles.
C'est ça, si l'épidémie est sous contrôle, selon le gouvernement, ce retour à une vie un peu plus normale nécessite d'assurer le suivi de la chaîne de transmission pour tenter d'éviter cette fameuse deuxième vague. Et pour cela, il faut donc tracer les individus. Si une personne présente à ce mariage ou dans cette discothèque développe des symptômes, eh bien il faut pouvoir retrouver ses contacts sur place afin de les mettre en quarantaine.
Oui, et donc les citoyens vont devoir dévoiler une partie de leur vie privée à l'État.
Moindre mal ou intrusion excessive, les avis sont bien sûr partagés. Cela provoquera certainement des débats au Parlement dès la semaine prochaine. La patronne de ce restaurant genevois comprend l'obligation de prendre les coordonnées d'un client par table de plus de 4 personnes, mais elle ressent un sérieux malaise.
De forcer les gens à le faire, c'est vrai que c'est un peu étrange pour nous. On a l'impression de fliquer nos clients, quoi. On fait plus un travail de sécu que de serveur actuellement. Et là, en plus, le fait de devoir prendre les coordonnées, c'est un peu une intrusion, quoi.
Ces contraintes, c'est au fond la liberté sous conditions que nous octroie le gouvernement, des contraintes inévitables selon l'infectiologue Didier Pittet, si on veut autoriser ces rassemblements jusqu'à 300 personnes. Et pour lui, le risque sera particulièrement sensible avec les discothèques.
Je vous rappelle qu'en Corée, c'est l'origine de la deuxième vague et donc il va falloir être extrêmement attentif avec ces lieux-là. Il faudra avoir une liste des présences. Nous devons prendre un certain nombre de risques qui sont des risques calculés, qui le seront un peu moins dans certaines situations que dans d'autres. Et il faudra que toutes les activités soient bien balisées pour qu'elles puissent avoir lieu. Mais il faut s'en réjouir.
Et certains ont fait le calcul du risque financier cette fois. Plusieurs patrons de discothèques et autres boîtes de nuit affirment qu'ils n'ouvriront pas. Les contraintes sont trop lourdes. Surtout l'obligation de fermer à minuit. Ce serait à coup sûr travailler à perte. Un vent de liberté a donc peut-être soufflé sur la Suisse cette semaine. La réalité économique risque de rapidement tempérer les enthousiasmes.
Le déconfinement se poursuit aussi en France avec l'assouplissement des restrictions sur les déplacements et la réouverture des cafés, des restaurants et des parcs à partir de mardi, mais sous conditions évidemment. Sur le plan épidémiologique, les voyants tournent au vert, même si la prudence reste de mise. Mais que ce soit pour les nouvelles hospitalisations, la capacité à tester ou la circulation du virus, les indicateurs sont bons et la situation sanitaire s'améliore. C'est ce qu'explique Aurélien Rousseau. Il est le président de l'Agence régionale de santé en région parisienne.
Aujourd'hui, on a tous les jours un peu moins de personnes en réanimation. On a moins de patients hospitalisés avec le Covid. On a surtout ce que nous appelons nos indicateurs d'alerte qui sont eux aussi orientés positivement. On a moins d'appels au SAMU pour suspicion de Covid. On a moins de passages aux urgences. Et puis surtout, dans tous les tests qu'on fait, on a un taux de gens qui sont Covid plus qui est assez faible. Donc du coup, tout ça donne effectivement un signal positif global. Mais il faut dire aussi que quand on a toujours 666 personnes avec le Covid en réa, qu'on a 7200 patients hospitalisés avec le Covid dans les hôpitaux et cliniques d'Île-de-France, le virus est toujours là, on n'est pas revenu à la normale. Donc il n'y aura pas de toute façon quelque chose qui passera du noir au blanc, sans vigilance, sans progressivité et sans surtout une capacité en permanence de revenir en arrière si jamais les chiffres se dégradaient.
Le président de l'Agence régionale de santé en région parisienne, donc interrogé par France Inter. Vous avez sans doute entendu que l'Organisation mondiale de la santé a décidé de suspendre les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Décision prise suite à une étude de la revue médicale britannique de Lancet. Mais au Sénégal, on a décidé de poursuivre les traitements à l'hydroxychloroquine. Les médecins continueront d'utiliser la molécule. Les autorités sanitaires et les responsables de la riposte anti-Covid-19 estiment qu'elle permet une guérison plus rapide des patients. William Delesseux est à Dakar pour RFI et pour l'accent des autres.
Aucun mort lié à l'utilisation de l'hydroxychloroquine. C'est le principal constat du professeur Moussa Seydi qui a décidé de poursuivre l'utilisation de la molécule pour ses patients et ceux de tout le pays. Constat partagé par son confrère, le docteur Cher Sorna, de l'Institut de recherche pour le développement et proche de l'infectiologue marseillais Didier Raoult.
L'Afrique au moins a au moins 50 ans d'expérience de l'utilisation de la chloroquine. Le nombre de milliards de comprimés avalés par les Africains depuis 50 ans, on n'a pas eu des millions et des millions de morts. Il n'y a pas d'effet secondaire grave. Je pense que les Africains n'ont pas besoin d'avoir des leçons de l'utilisation ou non de la chloroquine.
La décision de l'OMS d'interrompre les essais liés à l'hydroxychloroquine est pourtant sans appel. Yérim Banik Diop, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé.
Cette décision ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas dans cet essai. C'est clair, le Sénégal continue son protocole avec l'hydroxychloroquine. On continue mais on évalue. Ensuite, quand on aura des données factuelles sénégalo-sénégalaises quand même, on va prendre une décision.
La décision finale de poursuivre dans la durée le traitement revient au comité scientifique national qui se prononcera dans les prochains jours.
Reportage donc à Dakar de William Delesseux. Au Canada à présent, les provinces de l'Ontario et du Québec ont demandé aux militaires de pallier le manque de personnel dans les résidences pour aînés dépendants. Et après quasi un mois de mission, Manon Glomaski, l'armée a remis deux évaluations critiques de la situation.
On a déjà mentionné cette opération où près de 300 militaires ont été déployés dans 5 résidences de la région de Toronto et plus d'un millier dans 25 établissements du Grand Montréal. Cuistots, concierges, aides-soignants, ils ont été utilisés partout où il manque du personnel et ils ont pris des notes pour décrire l'état des lieux tant en Ontario qu'au Québec. Deux rapports qui ont fait du bruit, surtout le rapport ontarien qui souligne des conditions choquantes et horrifiantes, patients sur des matelas à même le sol, utilisation de cathéters urinaires souillés, manque de formation du personnel. C'est le rapport le plus difficile qu'il ait eu à lire, a dit le premier ministre de la province, Doug Ford. Des parlementaires ontariens vont maintenant tenir des audiences sur les raisons d'une telle détérioration des soins.
Et par ailleurs, Manon, le rapport du Québec est moins sévère, mais il souligne tout de même des problèmes récurrents.
Au Québec, plusieurs reportages avaient révélé l'état d'abandon dans lequel se trouvaient ces résidents nécessitant des soins de longue durée. Ce que les militaires notent, c'est qu'il manque beaucoup trop d'aides-soignants, que les normes pour le port d'équipements de protection individuelle ne sont pas toujours respectées et que du personnel passe toujours, malgré l'interdiction, de zones où sont les patients infectés à celles où il n'y en a aucun. Le premier ministre du Québec veut recruter 10 000 aides-soignants qui seront mieux formés et mieux payés, mais en attendant, il veut garder les militaires tout l'été.
Voilà donc pour la situation dans les résidences pour aînés dépendants dans ces deux provinces du Canada. Enfin, ce changement de cap plutôt inattendu cette semaine dans le monde de l'enseignement en Belgique. Les maternelles, c'est-à-dire les plus petits, entre 3 et 6 ans, vont pouvoir rentrer à l'école dès mardi prochain. Et une semaine plus tard, même chose pour les primaires de 6 à 12 ans. Ça n'est pas du tout ce qui avait été prévu dans un premier temps. Mais pour la ministre en charge de l'éducation côté francophone en Belgique, ça s'explique.
Ce qui est important dans notre connaissance de ce virus, c'est ce que les médecins, les pédiatres et les experts du groupe nous disent, c'est que la catégorie des 0-12 ans est vraiment une catégorie spécifique dans ce virus. C'est-à-dire, ils sont peu touchés par la maladie, certains sont contaminés mais présentent peu de symptômes et visiblement peu transmetteurs de la maladie.
Cela dit, cette situation n'arrange pas franchement les écoles, même si elles se réjouissent de revoir leurs élèves. Les directions s'interrogent et certaines sont très en colère. Elles ont l'impression d'être des marionnettes.
Jusqu'ici, les mesures étaient extrêmement strictes. On a eu une checklist d'une centaine de points à respecter il y a à peine 10 jours. Mon école aujourd'hui est bâchée. Il y a des bâches en plastique sur les meubles, il y a des marques au sol, il y a des affiches partout. C'était un boulot titanesque parce que inédit. Et je comprends aussi que la situation soit inédite pour les gens qui nous dirigent et qui prennent des décisions. Je l'entends, je le comprends. Après, il y a la réalité de terrain. On a déployé une énergie de dingue, on a déployé des stratégies, on a été très créatifs. Tout ce dispositif est amené à être remis en question. J'ai le sentiment qu'on me refile la patate chaude et que c'est à moi maintenant de devenir une professionnelle, un conseiller en prévention et toutes ces choses-là.
Sans compter que les délais sont très courts, quelques jours à peine pour tout réorganiser d'ici mardi, même si aucune école n'est obligée de rouvrir ses portes et même s'il n'y a pas non plus d'obligation pour les plus jeunes de revenir en classe. On ajoutera que côté syndical, un préavis de grève a été déposé et on demande un report d'une semaine au moins. Merci à tous pour cette actualité francophone. francophones qui se referment donc en Belgique. C'était l'accent des autres avec les médias francophones publics, RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine à la même heure.